En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Conduire à l'époque de la guerre de 7 ans et un moment particulièrement critique, comme vous l'indique le sous-titre, hein, l'effort naval français au péril de l'épidémie. Le XVIIIe siècle est ordinairement tenu pour un siècle de progrès médicaux et sanitaires, ce qui l'est à bien des égards, et il suffira de rappeler que la dernière peste frappant la France est celle de Marseille, plus largement de la Basse-Provence, qui déporte un peu jusqu'aux Cévennes d'ailleurs, en 1720. Le royaume pourrait ensuite apparaître indemne. Pourtant, cette appréciation de... même si, dans ses grandes lignes, elle doit être acceptée, dans la mesure où la peste disparaît, où il n'y a plus de grands fléaux touchant l'ensemble du pays, comme ça avait été le cas encore en 1693-1694. Mais si on ne voit plus disparaître des centaines de milliers de sujets du roi en quelques mois, comme au siècle précédent, le XVIIIe siècle français n'est tout de même pas épargné par la maladie. Il y a le tribut constant que la petite vérole continue de prélever sur la population, mais également des épidémies qui, si elles sont sans doute oubliées aujourd'hui, ont eu un impact qui n'était pas seulement local. Je pense à la dysenterie en 1779. Leur étude ne concerne pas uniquement les démographes ou les historiens de la médecine, elle peut intéresser également le chercheur en histoire militaire et, dans mon cas, particulièrement naval. Et c'est le cas d'une épidémie survenue en 1757 à bord d'une escadre envoyée de Brest vers le Canada pour secourir à la défensive. Et le 30 août, la maladie est décrite comme générale à bord des vaisseaux, en dépit du temps, dans cette fin d'été, qui est convenable. Alors, à partir de ce moment-là, la question, c'est comment on va rentrer en France. Et l'idée, on ne peut pas rester à Louisbourg indéfiniment, parce que la mauvaise saison se rapproche. Ensuite, il va falloir retraverser l'Atlantique. L'hiver est précoce dans ces pays rudes. Donc, comment faire pour rentrer ? En octobre, on évalue à 1400 hommes le nombre des victimes depuis l'arrivée à Louisbourg, et il y a toujours de nouveaux malades. Alors ça va varier d'un bâtiment à l'autre, ça va être en décalé, mais l'épidémie ne cesse pas. Donc Dubois de la Motte décide de ne prendre à bord des bâtiments pour rentrer en France que ceux qui sont jugés parfaitement convalescents. Alors le problème, c'est l'adverbe « parfaitement ». Quant à ceux qui apparaissent comme vraiment malades et hors d'état de supporter le voyage, on va les laisser à Louisbourg, tant pis pour eux. Ceux qui apparaissent comme malades, pas encore complètement convalescents, on va les parquer à bord d'un navire hôpital, l'Apollon, qu'on mettra tout à fait en arrière de l'escadre. Et, chance documentaire exceptionnelle, on a le journal de navigation de l'Apollon. L'armée navale appareille le 30 octobre. Ils ont pu sortir parce que la tempête a chassé les Anglais, il faut être très clair, parce que tout le monde reconnaît que, vu l'état des équipages affaiblis et clairsemés, ils auraient été totalement incapables de livrer bataille. Et on se rend compte, ils encaissent des séries de coups de vent. Il y a tellement peu de gens vraiment en bonne forme physique que... il faut adapter la voilure en permanence à l'évolution du temps et du vent. Ils ne sont pas capables de le faire. Ils ont la chance de ne pas perdre d'unité, mais ils se trouvent dispersés. Il faut plusieurs jours à chaque fois pour se retrouver après coup. Bon, à bord de l'Apollon, il y avait des prisonniers anglais qui, eux, avaient l'air d'être un peu plus résistants, qui ont failli s'emparer du bâtiment, tellement les geôliers étaient diminués. Bon, résultat... ils arrivent malgré tout à Brest le 23 novembre vers 10h du soir. Là encore, la tempête leur a permis d'échapper aux Anglais. Et le rédacteur du journal de l'Apollon note ceci. « Des 203 malades, il nous en est mort 111. Débarqués malades, 92. Des 110 hommes d'équipage, 20 morts. 75 débarqués malades. Restaient 15 hommes en état. » Bon. qu'ils aient réussi à rejoindre Brest est déjà en soi une performance. Alors, que savons-nous de cette épidémie? Qu'est-ce qui nous en est dit? Première source de renseignement, les journaux de campagne que je viens déjà d'utiliser, tenus par des officiers. Alors, ils ne s'attardent pas à décrire précisément les symptômes, hein, c'est pas leur, ils n'ont pas été formés pour cela. Néanmoins, il y a quelques indications intéressantes pour nous. La première mention de la maladie que je vous évoquais tout à l'heure par M. de Beaufremont, dès février, nous donne peut-être l'essentiel. 3 jours de délire, fièvre maligne, puis mort. Et il est aussi question, dans son journal, de fièvre putride ou vermineuse. L'affaiblissement physique doublé de langueur est évident. Il rend les hommes incapables de travailler et on déduit facilement que c'est tout le système débordé, que c'est tout le système d'écart qui se trouve complètement perturbé, ce qui veut dire que ceux qui sont encore à peu près en état vont donc être surutilisés. Et là, on a en quelque sorte une mise en abîme de ce qui est peut-être le résumé de cette histoire. Trop peu de gens qu'on surexploite jusqu'au moment où physiquement, ça n'est plus possible. Alors, pour tenter d'enrayer le mal, les commandants donnent l'ordre d'aérer dès que possible les batteries. Alors, on en retrouve tout le discours qu'on connaît sur les miasmes, le mauvais air, etc. Il y a deux choses que l'on tâche de faire, puisqu'on a compris que c'était des maladies de conséquence, comme on dit. C'est d'abord d'aérer, de parfumer les batteries. Mais aussi, n'oublions pas, c'est une navigation par gros temps. Il faut fermer les sabords. Donc, évidemment, le confinement donne les résultats que vous pouvez imaginer. Et puis aussi, comme le dit un des commandants, j'ai soin d'entretenir mes gens dans la gaieté pour chasser de leur esprit toute idée lugubre. Bon, on le comprend à moins. Alors, il y a de quoi avoir des idées lugubres, parce qu'il y a plusieurs cas de malades pris de transport qui se jettent même par-dessus bord. La propagation du mal s'avère aussi rapide que difficile à enrayer, ce qui explique que la vulnérabilité des chirurgiens de leurs aides, qui sont parmi les victimes en proportion les plus fréquentes. Alors, tout le monde n'est pas tué, hein, tous étaient atteints, mais tous n'en mourraient pas, sauf que les convalescents sont, ou supposés tels, là, je serais très prudent, s'avère très faible et une partie des convalescents qu'on croit ou qui se croient tirés d'affaire en fait font des rechutes qui sont fatales. Alors, ça, c'est ce que disent les officiers. Nous avons ensuite une analyse beaucoup plus précise que nous donne le conseiller médecin ordinaire du roi, inspecteur général adjoint des hôpitaux de la marine, Poissonnier des Perrières, dans son traité des maladies des gens de mer, publié à Paris peu de temps après, en 1767. Pour lui, la cause du mal, alors il y a toute une étiologie, hein, c'est le fait que la transpiration devienne difficile ou impossible, donc on ne peut pas permettre la sortie des humeurs. Alors pour lui, il y a une espèce de cause unique. Alors en soi, c'est pas original parce que il se met vraiment dans le sillage d'un Écossais, le docteur John Pringle, qui, pendant la guerre de succession d'Autriche, le conflit précédent, a fait observer les effets des maladies et du confinement sur les camps militaires, sur les garnisons de l'armée anglaise opérant en Flandre avant Fontenoy. Et il publie ses observations à Londres en 1752. Alors, Poissonnier des Perrières va se mettre pour l'analyse du mal exactement dans cette lignée. Après, ce qui est intéressant, c'est la description détaillée des symptômes qu'il nous donne. Pour résumer, d'abord lassitude, perte d'appétit, maux de tête, inquiétude, fièvre, d'abord peu importante, puis nausée, haleine fétide, frissons, visage livide, surtout plus aucune force, une sensation d'étouffement et d'hébétude. Ça, c'est sorte de première phase à suivre. Après, moi, n'étant pas de la partie, j'ai du mal à apprécier exactement par rapport aux symptômes. Aujourd'hui, les historiens parlent plutôt de typhus exanthématique. Alors effectivement, quand on compare ensuite les similitudes, on retrouve des choses. Puis tout cela croît en intensité et le médecin note la chaleur âcre de la peau, les frissons, la fièvre plus importante, l'estomac devient douloureux, le délire survient, la peau se couvre de petites taches pourprées, livides ou noires. On en est là au bout d'une semaine. Puis l'agitation devient de plus en plus marquée, le pouls le plus souvent sans ressort, les urines et les déjections une odeur de plus en plus nauséabonde, le corps manifeste des traces d'écorchures et de gangrène. Il y a des éruptions dites petéchiales et gangréneuses qui apparaissent sur la peau. Bon, si on y échappe, on est là vers le 14e jour. Mais les rechutes sont possibles et surtout lorsqu'on se croit tiré d'affaire. Et la convalescence, quand convalescence il y a, est longue et laisse les patients très affaiblis. Donc pour Poissonnier des Perrières, dont je ne suis pas certain qu'il était présent lui-même à Brest à ce moment-là, ce qui s'est passé dans l'escadre du Bois de la Motte, puis ensuite à Brest, c'est bien, comme on dit à l'époque, la fièvre maligne des vaisseaux, donc qui serait le typhus exanthématique provoqué par l'entassement ici à bord, mais on retrouve dans les camps militaires, on le retrouve dans les prisons, on le retrouve, vous voyez, dans des garnisons, ce qui peuvent être évidemment en temps de siège aussi, de gens dans des conditions sanitaires déplorables. Alors, notre médecin nous livre aussi son interprétation de la propagation de l'épidémie. Pour lui, elle vient non pas de Brest, mais de Rochefort, c'est-à-dire des bâtiments venus de Rochefort ont eu des équipages qui ont été formés. Et là, on voit apparaître quand même un élément important, à savoir on n'a pas suffisamment de marins, donc on va même vider l'hôpital de Rochefort de tous les sujets supposés convalescents qu'on embarque. Et puis, il y a un petit couplet sur Rochefort, les fièvres, l'estuaire de la Charente, etc., le tombeau de la marine. Donc, on met tout ce monde-là à bord. En fait, ils ne sont déjà pas bien quand ils arrivent à Brest. Il faut débarquer à Brest une partie du monde et ensuite on va adjoindre les unités rochefortaises à celles brestoises et on envoie tout ça en Amérique. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'il y ait des malades dès le voyage aller. Bon, ce n'est pas encore le pire moment parce que les bâtiments, par définition, étant séparés, chacun va garder ses malades, on va se clos. Le problème, ça va être à Louisbourg, lorsqu'il y aura des communications de bâtiment à bâtiment, et surtout lorsqu'on va débarquer les malades, et que là, vous aurez une sorte de camp de malades qui va mélanger les équipages des différents bâtiments, et ça correspond à l'été. Bon. Alors, je termine sur ce point en signalant que Poissonnier des Perrières, bon, indique quand même, parce que c'est bien de dire que ça vient de Rochefort, mais qu'il y a peut-être des causes plus générales. Et ça, c'est quand même intéressant. Il dit « La plupart des matelots étaient déjà en mauvaise santé. Beaucoup sortaient des prisons d'Angleterre, avaient été déjà capturés dans les premiers temps de la guerre, puis échangés, revenaient en mauvaise santé, donc victimes du confinement dans les prisons, etc. » Et ensuite, si on y ajoutait des matelots, là encore, le manque de gens qu'on embarquait sans expérience, il y avait des gens entre ceux qui étaient potentiellement malades et ceux qui n'étaient pas amarinés, on risquait d'avoir quelque chose de tout à fait dangereux. Alors, notre médecin n'a pas tort lorsqu'il met en évidence la profonde fragilité qui caractérise les équipages français au bout de 2 ou 3 ans de guerre navale. Et je terminerai rapidement en expliquant comment ce mal de Brest a pris des dimensions de catastrophe navale dont la portée n'est pas seulement celle d'une seule escadre. Manifestement, la maladie se trouve déjà à Brest au début de 1757 et pas seulement à cause des bâtiments qui viennent de Rochefort. Bon. Ce n'est pas la première fois qu'une épidémie dévaste une escadre. On a déjà eu des cas lors de la guerre précédente, en 1741, typhus et dysenterie dans l'escadre du duc d'Antin. Pire encore, en 1746, le but c'était de reprendre Louisbourg. Typhus aggravé de scorbut, l'amiral lui-même disparaît. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'une épidémie se communique des vaisseaux au port, puis à la province. Sauf qu'en 1757, ça va prendre une ampleur, là, vraiment sans précédent, d'où le nom de mal de Brest. Ce mal de Brest, il est difficile d'en donner une estimation précise. Poissonnier des Perrières assure qu'entre fin novembre 57 et fin février 58, il y aurait eu 10 000 morts dans les seuls hôpitaux brestois. Un chirurgien réquisitionné, le docteur Bagot, parle à lui de plus de 15 000 décès à Brest, sans préciser si c'est les hôpitaux plus la ville, ce qui est sans doute vraisemblable. Un autre témoin, le docteur Busson, ne lui s'en tient à 4 500 morts, mais peut-être ne parle-t-il que des seules victimes civiles ou des seules victimes militaires. Bon. En fait, on ne sait pas très bien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu plusieurs milliers de décès. Entre novembre et février, à Brest et Recouvrance. Puis ensuite, l'épidémie recule au printemps. À Brest, l'épidémie provoque la saturation des capacités hospitalières, puisque quand arrive l'escadre, on va devoir loger immédiatement 4000 malades qui sont débarqués en chemise, dans des chaloupes, depuis les bâtiments qui sont encore en rade, sous la pluie, et transférer là où on peut. L'hôpital de la Marine, il y a théoriquement 1100 places. On va réussir à y entasser 2700 malades. Puis ça ne suffit pas. Donc on va improviser des hôpitaux. On va en mettre dans les casernes partout où on peut. On fait appel à des chirurgiens, des médecins, des infirmiers de toute la Bretagne. On en fait même venir de Paris. On ne sait pas combien il y a eu de pertes parmi, vous voyez, tous ces gens qu'on a fait venir pour soigner l'épidémie. Une chose, cependant, me semble sûre, c'est que Poissonnier des Perrières, qui semble écrire depuis Paris, ne fait vraiment pas grand cas des efforts des médecins de marine brestois, tels qu'Étienne Chardon de Courcelles, qui avait déjà dû affronter le typhus en 1746, et que dans d'autres écrits, il attaque... nommément, et puis il va en résulter toute une polémique qui durera bien plus longtemps. Par des malades qui trouvent le moyen de s'échapper des hôpitaux brestois, le mal de Brest se répand dans les environs. Et puis, c'est pas seulement Crozon, Camaret, Roscanvel, enfin les environs, ça va être en fait, c'est Quimper, c'est Lorient, c'est jusqu'à Vannes, donc toute la Basse-Bretagne est touchée, et puis ensuite, ça remonte vers la Haute-Bretagne, pour ceux qui connaissent le secteur de Plénay-Jugon. Donc là, bon, ça commence à prendre vraiment des proportions tout à fait importantes, et on a pu avancer une fourchette de 15 à 20 000 morts hors de Brest. Donc ça fait quand même un prélèvement tout à fait important. Une récente histoire de Brest concluait à 10 000 victimes directes et indirectes pour la ville et ses seuls environs, mais ça ferait quand même un Brestois sur 5 ou 6. Alors cette catastrophe, et je termine par là, n'est pas seulement brestoise ni même bas-bretonne. En fait, elle touche le cœur de l'effort naval français, et ça, ça a une toute autre portée, et on retrouve notre sujet. L'historien canadien Tim Le Goff avait étudié les équipages français de la guerre de 7 ans, et c'est à lui que j'emprunte les données que vous avez là, où vous retrouvez un certain nombre, ici, pas tous, des bâtiments qui sont ceux de l'escadre de Dubois de la Motte. On a une mortalité d'ensemble de l'escadre, nous dit-il, qui est en moyenne de l'ordre de 25%. Sauf que, évidemment, vous avez quand même quelques unités, le formidable ou le superbe, dont je suis allé voir les rôles d'équipage aux Archives nationales, où là, vous sentez que c'est quand même beaucoup plus important. Hein, on n'est pas tout à fait au tiers, mais pas très loin. Et vous voyez ce qui, quand, et ça, on se rend compte en voyant les rôles d'équipage, c'est que plus vous allez apporter des compléments pour combler les trous, plus les compléments, en fait, disparaissent, mais fondent à une vitesse absolument incroyable. L'épidémie prive la marine royale de marins d'autant plus précieux, 1757, qu'ils étaient déjà, par eux-mêmes, moins nombreux que les marins dont disposait la Royal Navy, ce qui est déjà un fait, et là, 50 000 environ d'un côté, 80 000 ou 90 000 de l'autre, bon, alors que la France est plus peuplée, deux fois plus peuplée que l'Angleterre, mais surtout, vous aviez eu une hémorragie de marins français capturés par la Navy depuis le début de fait de la guerre sur mer en 1755, la guerre officiellement ne commence qu'en 1756. Donc, si vous voulez, les pertes subies à cause du mal de Brest, qu'on a parfois évalué à quelque chose comme 6 000 morts directes ou indirectes, ça ferait quand même 15% du potentiel français de 1757, hein, ce qui est quand même très lourd. C'est des pertes qui dépassent. Si vous voulez, 5 ou 6 000 morts, c'est beaucoup plus qu'une bataille navale perdue. Ni Lagos ni les cardinaux en 1759 ne provoqueront de pareils chiffres de pertes. Et là, on voit très bien ce qui est l'effort naval français dans la guerre de 7 ans, c'est-à-dire un effort naval maintenu pour maintenir les liaisons avec le Canada, avec les Antilles, une sorte d'hémorragie des effectifs qui commence dès 1755. Alors là, il y a différentes raisons, on pourra revenir dessus si vous voulez. Et puis, lorsque cette hémorragie est en cours, vous avez ce choc évidemment imprévu par l'amirauté britannique, qui est celui du mal de Brest, et là, qui laisse une marine royale, en quelque sorte, exsangue. Et ensuite, vous aurez les effets induits, parce que quand on veut continuer d'armer des unités en 1758, Brest est hors d'état d'armer une escadre. Ça, on ne peut plus. On va donc essayer d'envoyer vers Louisbourg, vous voyez, à différence avec l'année précédente, on ne peut plus envoyer d'escadre, on va envoyer des bâtiments isolés. Et ces bâtiments isolés, ils sont... Enfin, ils n'ont même pas le temps d'être pris. En fait, les équipages sont faits avec des soi-disant convalescents, et là, ça pourra atteindre 60% de pertes. C'est-à-dire que certains des bâtiments vont devoir s'arrêter dans un port espagnol de la côte basque ou cantabrique, parce que, de toute manière, on n'a plus personne pour assurer la manœuvre du bâtiment. C'est-à-dire que l'effort pour soutenir Louisbourg a laminé le potentiel amoindri de la marine. Le système de communication avec le Canada tenait sur Brest et Rochefort, mais le pilier nord, à savoir Brest, s'effondre en 1757-58, victime de l'épidémie, mais aussi de la misère. Et l'hiver 1757-58 à Brest est le moment, en quelque sorte, la tragédie française de la guerre de 7 ans se noue, le typhus est à son apogée, et à partir de février, les salaires n'arrivent plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus payer les ouvriers d'Arsenal, on ne peut plus payer les marins. Et là, vous avez déjà en train de s'inscrire la suite de l'affaire, puisque pour essayer de sauver le Canada, on imagine, puisqu'on ne peut plus faire passer des renforts vers le Canada, on se dit qu'il faut attaquer Carthage à Carthage même, c'est-à-dire débarquer en Angleterre, et vous aurez le grand plan d'opération de Choiseul et Belle-Île pour 1759, dont finalement tous les morceaux vont tomber, sauf, hélas, celui qui s'appuyait sur la Bretagne, expédition particulière, débarquée vers Glasgow. Alors, on pensait qu'il y avait encore des Jacobites, qu'on allait pouvoir soulever tout ça. Mais on ne peut pas cantonner des troupes en Basse-Bretagne. C'est trop dangereux d'un point de vue sanitaire, en tout cas pas dans les parages de Brest. Donc, on va mettre les troupes vers Vannes. Et il faudra à ce moment-là que la flotte de Brest vienne chercher les transports de troupes qui sont dans le golfe du Morbihan et en baie de Quiberon. Et c'est ainsi que vous aurez la sortie de novembre 1759 et qui permettent à la flotte de Brest de venir vers la baie de Quiberon. Mais ils sont rattrapés par les Anglais et ça donne la bataille des Cardinaux du 20 novembre 1759. Alors, deux remarques pour finir. Bon, le mal de Brest, vous l'avez compris, se situe à un moment clé de la guerre de 7 ans. Il n'est pas responsable à lui seul de la défaite française, mais survenant un moment d'anémie croissante du potentiel naval de la France, tant humain que financier, il a un effet d'accélérateur qui est absolument dévastateur. C'est-à-dire que perdre en quelques mois, soit de manière définitive, soit de manière temporaire, plusieurs milliers de marins, là, ça met à genoux l'effort naval français. C'est-à-dire qu'à partir de 1758, le problème, ça n'est plus les vaisseaux, c'est les hommes. C'est-à-dire qu'on n'a plus les hommes pour armer les vaisseaux qu'on a encore. Les épidémies, elles ont joué, si on regarde bien, un rôle majeur à plusieurs reprises dans l'affaiblissement de l'effort de guerre français entre la fin du XVIIe siècle et l'époque de la guerre d'indépendance américaine. Et Michel prendra le relais pour la suite. Bon, une première fois en 1693-1694, il y a l'épidémie, mais il y a aussi des problèmes de ravitaillement. En pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg, au moment où la France est la première puissance sur terre et sur mer, pour la seule fois de son histoire, où elle doit lutter seule contre une vaste coalition européenne, quand il y a peut-être 1 million de victimes en quelques mois, bon, le géant français encaisse, tient le coup, mais ensuite il faut choisir la terre ou la mer. On ne pourra plus être le premier partout. Et c'est le moment où la Navy passe devant la marine française. Bon, c'est quand même un moment historiquement important, au-delà du règne de Louis XIV. Et puis, au XVIIIe siècle, à trois reprises, le typhus a fait échouer les opérations, le typhus ou d'autres maladies, fait échouer les opérations navales contre l'Angleterre. 1746, l'expédition du duc d'Anville pour reprendre Louisbourg échoue complètement pour cette raison, et d'Anville lui-même meurt à son bord. 1757, vous avez vu ce qu'il en est. 1779, l'expédition sans doute la plus crédible ou la moins déraisonnable avec un projet de débarquement en Angleterre. échoue complètement parce que est-ce que c'est le typhus, est-ce que c'est la dysenterie, là je resterai prudent, frappe en tout cas l'armée navale du comte d'Orvilliers sur le point d'entrer dans la Manche. Alors, vous voyez que l'exemple français au XVIIIe siècle nous montre finalement que des opérations qui peuvent être bien menées ou convenablement conçues peuvent être complètement rendues inopérantes par la maladie. Et si on change de côté de la Manche, on se rend compte, à contrario, à partir de 1759, quelque chose qui apparaît de manière évidente, c'est la capacité des escadres anglaises à tenir longtemps la mer, que ce soit pour conquérir les Antilles, s'emparer de Louisbourg, ou bien pour bloquer Brest. Et cette capacité, elle est due à leur nouvelle maîtrise des conditions sanitaires et à tout un système logistique qui permet de ravitailler les équipages. En d'autres termes, la victoire sur l'ennemi, c'est d'abord celle sur l'épidémie. Je vous remercie.
Merci à vous. Belle démonstration et qui laisse rêveur parce que, comment dire, c'est une sorte d'abîme, enfin, de réflexion que vous ouvrez à nos réflexions. Qui veut...
Est-ce que vous pouvez alors nous en dire un peu plus donc, sur cette logistique qui a permis aux Anglais d'affronter le mal avec plus d'efficacité?
Alors, les Anglais ont conçu, ils y pensent au tournant 17e-18e, mais ça, ils mettent ça en place à partir de 1747 et surtout pendant la guerre de 7 ans, un système qu'ils appellent The Western Squadron, c'est-à-dire de mettre une escadre vers l'entrée de la Manche qui permette d'une part de protéger la circulation des bâtiments marchands qui vont vers la Manche ou qui vont de l'autre côté, vers l'Irlande, donc les mettre à couvert des entreprises des Français. Et puis surtout, l'idée, ça va être de boucher Brest. En quelque sorte, c'est de mettre un bouchon au goulet de Brest pour être sûr que les Français ne risquent pas d'attaquer l'Irlande, l'Écosse ou l'Angleterre. Alors, le problème, c'est que ça impose de tenir la mer dans une zone dangereuse pendant des semaines, des mois, etc. Alors, dans un premier temps, ils ont subi le scorbut, ils ont subi toutes les pertes que vous pouvez imaginer, parce que les conditions météo sont exécrables et que l'amirauté anglaise impose de rester, qu'on n'a pas de bonnes cartes, donc on découvre des récifs, etc. Et puis, il y a un moment, à force de ténacité, ils vont perfectionner la chose. Ils vont s'appuyer non plus sur Portsmouth, mais sur Plymouth, donc c'est beaucoup plus proche, avec des escadres. Alors, il va falloir organiser des rotations, parce que ça use les hommes et le matériel quand même très vite. Hein. C'est un luxe de riche de pouvoir bloquer Brest. Et puis, surtout, ça va être la victoire, elle va tenir. Alors, c'est l'époque où paraît le traité du docteur Lind sur comment traiter le scorbut. Alors, après, entre le moment où un traité de médecin paraît et le moment où, dans le vécu des équipages, ça entre en application, là, je ne suis pas sûr que la concomitance de dates nous explique la chose. Ce qui me paraît beaucoup plus fiable, parce que ça, je l'ai lu nos archives d'amirauté anglaise dans les rapports de l'amiral Hawke, c'est qu'il a mis sur pied une sorte de noria, de petits bâtiments qui partent du sud de l'Angleterre, qui rapportent de la viande fraîche, des légumes, des vivres frais. Donc les équipages peuvent à ce moment-là rester sur zone dans les parages d'Ouessant, vous voyez, c'est pas loin de Ouessant, de Molène, etc., mais recevoir en permanence de quoi maintenir la santé des équipages. Et tout tient à cette noria de petits bâtiments. Alors, on voit l'amiral qui écrit des lettres superbes en disant, mais que vraiment on se fiche du monde, d'envoyer une bière d'aussi piètre qualité, ça n'est pas buvable, il faut envoyer de la bière de bonne qualité. Et puis, ensuite, on voit, il y a tout un système, en fait, il traite avec les victuallers de la Navy, c'est-à-dire les avitailleurs, alors on voit les troupeaux qui affluent vers Plymouth, où vous aurez tout ce qu'il faut pour fournir en viande, et puis ça va être les légumes, vous voyez, ça va être tout ça. La victoire sur les Français, elle se joue à ce niveau-là.
Est-ce que je peux...
Non, allez-y. Rajouter quelque chose, c'est que, justement, pendant la guerre d'Amérique, ce système-là ne va pas fonctionner. Mmh. C'est ce qui va causer la défaite anglaise. Mais... Voilà, donc on a eu il y a eu un effondrement du système. Ils ont pu, enfin, je ne sais pas pour quelle raison interne.
Si, la raison, elle est très simple, c'est que la Navy doit faire face à tellement de missions pendant la guerre d'Amérique, à commencer par celle, si vous voulez bloquer Brest, on sait faire, bloquer la totalité des ports et côtes de la Nouvelle-Angleterre jusqu'au sud, là, ça dépasse quand même les possibilités de la Navy, surtout quand on doit maintenir quand même une réserve assez importante au cas où les Français vous attaqueraient sans prévenir, quoi. Donc la Navy est écartelée. Et puis, il ne faut pas oublier, les histoires en Amérique ont commencé quand on a voulu faire, un, des réductions budgétaires en Angleterre, deux, réduire la dette. C'est pour ça qu'on a voulu faire payer les Américains, qui, soit dit en passant, bénéficiaient d'une situation merveilleuse. Hein. Ils ne payaient rien et on faisait le travail pour eux. Le jour où on a présenté la note, c'est là où les choses ont tourné très mal.
Dans les rapports que vous avez pu voir, est-ce qu'il est fait mention de vermine ou de poux?
Alors, parce que
pour vermine, typhus, oui, ça serait bien.
Oui, vermine, absolument. Ouais. Poux, non.
Oui, mais enfin, à l'époque, il disait plutôt vermine.
Voilà. Donc, vraisemblablement. Fièvre vermineuse, ça, je le trouve régulièrement.
Bon, donc, je crois que c'est à peu près entendu avec les symptômes. Et voilà, ça, je crois que c'est
moi,
bon,
je ne suis pas de la partie. Ça m'avait l'air de correspondre assez bien. Si vous me confirmez, je pourrais donc livrer une version écrite.
Est-ce qu'il y a des restes des gens de cette époque? Il y a des sépultures quelque part ou pas?
Il y en a certainement, mais pas identifiables comme tel.
Parce que là, il y aurait quelque chose à faire. Hein.
Alors, en revanche, là, la piste que vous ouvrez a pu être exploitée parce que le duc d'Anville, on a retrouvé sa tombe. Donc lui, il est mort de maladie équivalente en 1746. Et ça a été étudié, là, il y a le livre d'historien canadien, là, James Pritchard. Et il y a même la photo, là, on a ouvert la tombe du duc d'Anville. Hein, donc, là, oui.
Parce qu'on a les moyens de retrouver les traces du typhus exanthématique, mais aujourd'hui, sur les restes. Donc,
alors, ça, je sais pas, son livre est de 95, ouais. Je me souviens plus s'ils avaient fait des analyses.
95, c'est peut-être un peu tôt.
C'est peut-être un peu tôt, oui. Mais à mon avis, bon, on va peut-être laisser le duc d'Anville tranquille, mais si aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, on rouvrait sa sépulture, là, je pense qu'on aurait vraiment la confirmation. Ouais.
Est-ce que je peux vous poser une question qui témoigne de mon mauvais esprit? Louisville, tout de même, l'escadre est partie pour défendre Louisville, dont vous nous avez dit que ça ne pouvait pas servir... Louisbourg, que ça ne pouvait pas servir à grand-chose, étant donné l'ensemble à couvrir, et que... Par ailleurs, ça avait été construit à très grands frais, puisque... Alors, qui en est responsable? Un lobby d'entrepreneurs de travaux publics?
Ils sont venus après. Ça s'est décidé dans les bureaux de Versailles, mais aussi depuis Québec, hein, on y a poussé. Non, ça, tout le monde a participé à l'affaire.
C'est pas seulement du mauvais esprit. J'ai toujours en mémoire un passage de Paul Claudel, dont je ne sais plus... un de ses écrits sur la Chine, à propos de la muraille de Chine, qui n'a jamais servi à rien. Il disait, ça n'a jamais servi à rien, la seule explication possible, ce sont des entrepreneurs de travaux publics qui avaient leurs entrées à la cour et qui réussissaient à se connecter à la pompe à finances. Voilà, alors, elle n'est pas d'accord.
Parler, parce que la Grande Muraille, bon, effectivement, la fin du temps de Claudel, effectivement, c'était une grande muraille, donc elle était reliée, mais la Grande Muraille, je pense qu'elle a effectivement, il y a un certain moment, elle a vraiment servi, quoi. Ouais. D'autant plus que c'était pas forcément que la Grande Muraille, mais qu'il y avait justement, il y avait la Grande Muraille plus des avant-postes, par exemple, dans l'Ordos, donc, je veux dire, c'était quand même c'était un système, ne serait-ce que de signalement et de, surtout pour signaler le danger et pour justement pour préparer la défense, c'était vraiment quelque chose de vraiment très, très développé, et ce, depuis les débuts de notre ère.
Je ne suis pas Claudel, je ne suis pas spécialiste.
Claudel.
Mais
licence poétique.
Le mois dernier, il y avait deux journées sur guerre et technique, et nous avions un sinologue spécialiste de la Grande Muraille, et en particulier de la région de Mongolie, et qui convenait également que ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, vous savez, les avant-postes, c'est tout à fait différent. Parce que... Bon, je veux bien. Non, mais c'est un...
Les murs de Louisbourg ont servi.
C'est des questions qui méritent d'être soulevées, tout de même. Ce sont effectivement des travaux publics, ça coûte. Et donc,
le problème, c'est qu'on n'avait pas fini Louisbourg. Enfin, Louisbourg n'a jamais été fini, c'est ça le problème.
Oui.
Très vite. Et comment s'est terminée cette affaire de...
Mal. Mais, l'année suivante, Louisbourg a été perdu. Les Anglais, qui étaient venus qu'avec 16 vaisseaux, sont venus avec 40 ou 50. Hein. L'année d'après, ils ont fait un énorme effort, et même comme ils voyaient très grand, ils disaient « on prend Louisbourg, dans la foulée, on monte à Saint-Laurent, on prend Québec ». Ça a été un peu plus compliqué que ça. Louisbourg, ils n'ont pas réussi à débarquer au début, et le jour où ils sont sur le point de renoncer, il y a un jeune brigadier d'infanterie du nom de James Wolfe qui risque tout, et qui débarque à un endroit où on ne s'y attend pas. C'est le même qui refait la même chose l'année suivante à Québec. Et le malheur, c'est qu'à Québec, il y a un nommé Montcalm qui n'est pas capable de se tenir tranquille 3 heures. Le 12 septembre 1759, il se serait tenu tranquille 3 heures. À ce moment-là, Bougainville et Lévis arrivaient de Montréal. Les Indiens bloquaient tout le monde sur les plaines d'Abraham. C'était fini pour les Anglais. Et quand on sait que l'Angleterre avait fait un effort financier inouï, c'est le plus gros budget de toute l'histoire de l'Angleterre jusqu'alors pour s'emparer de Québec, William Pitt, l'ancien, joue toute sa carrière politique là-dessus. Ça se joue à pas grand-chose sur les plaines d'Abraham, mais alors après...